aujourd'hui avec Jean Rouault. Alors, j'avais pensé à inviter Jean Rouault en vérité à cause de son premier roman, Les Champs d'honneur, publié en 1990, parce que lorsque j'avais imaginé ce séminaire témoigner en liaison avec Écrire la vie, qui était le sujet du cours, j'avais pensé qu'on en ferait plus sur la Première Guerre mondiale, sur notamment cet ouvrage essentiel sur réflexion sur le témoignage de Jean Norton Crue. Je sais que je l'ai évoqué une ou deux fois par la bande, mais que je crois qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Et donc finalement, c'est comme avec la plupart des invités d'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a au fond beaucoup de raisons de les faire venir. Après ce premier roman, Les Champs d'honneur, Jean Rouault a en effet continué à explorer un matériau qui venait de la vie, qui venait de la famille, qui venait de l'autobiographie, mais l'autobiographie large. Et c'est donc une œuvre qui correspond aussi bien au titre de la première partie du cours qu'à celui du séminaire. J'ai pensé aussi à l'inviter parce qu'il y a quelques années, il m'avait invité à sa fête du livre dont j'oublie le lieu maintenant.
Cambon.
Comment ça s'appelle ?
Cambon.
Cambon. Et j'avais trouvé ça, donc j'en profite pour dire un mot d'éloge de cette fête du livre parce que je l'avais trouvé très réussi et très agréable. Et ben, je crois que au moment où je l'ai invité à l'automne, je pensais à son dernier livre, La fiancée juive, qui venait d'être publié, qui m'intéressait aussi parce que c'était un livre, d'une certaine façon, multimédia, avec accompagné d'un CD, mais il vient de publier un autre livre depuis, intitulé La femme promise. Alors, il m'avait donné un titre, L'invention du réel. Mais j'ai lu là, dans le Figaro il y a quelques jours qu'il avait aussi un sous-titre, Invention du réel, invention de la souffrance. C'est ce qui a été annoncé. Et
oui, alors.
Je vous donne donc la parole.
Merci. Et le sous-titre s'est imposé un peu après, il était trop tard pour le signaler, mais c'est par rapport à l'intitulé de ce séminaire, témoigner. Évidemment, témoigner, on pense à Saint-Simon. Et qu'on ne cite jamais comme auteur du réel, comme auteur réaliste, alors que pour ce qui est de son champ d'action, à savoir la cour, il est d'une minutie extraordinaire. On sait tout du protocole, des histoires de tabourets, de cordons, etc. Une galerie de portraits extraordinaires de plusieurs milliers d'individus qui se croisent, qui sont reliés par la généalogie, la famille, etc. Et une étude de son temps qui est sans égale. Et simplement, on peut tirer cette conclusion qu'on ne témoigne que ce dont on est appelé à témoigner. Saint-Simon témoigne pour sa classe, il se veut, et sa caste, il se veut historien. Donc il témoigne des gens qui gravitent autour de lui et du monde dans lequel il évolue. Et il y a une chose qui m'avait, un fait qui m'avait frappé au cours de la lecture des mémoires, c'est le récit d'une bataille, et on est, je crois, en 1705. Il y a deux armées qui s'affrontent au front de la vallée, et sur les hauteurs, vous avez l'état-major, et notamment le roi d'Espagne. Et évidemment, Saint-Simon ne nous épargne rien. De toutes les subtilités comme ça, des relations entre les uns et les autres. Le roi d'Espagne qui s'avance au mépris des boulets pour montrer sa bravoure à ses proches. Et puis, soudain, on s'avise que le roi d'Espagne pourrait être victime d'une insolation, et on le supplie de se mettre à couvert, et le roi d'Espagne accepte de se mettre à couvert sous un arbre, non pas pour se prémunir des boulets, mais pour se prémunir du soleil. Donc, il y a des pages et des pages sur ces jeux de pouvoir, et tout au fond là, du vallon, il y a donc deux armées qui sont en train de s'étriper, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir cet affrontement, Saint-Simon n'a qu'une phrase lapidaire. Il dit, parlant de cette bataille, il dit « De part et d'autre, il y eut de grands carnages et peu de prisonniers. » C'est tout. On a eu encore une fois, on a tous eu des états d'âme et des subtilités comme ça du protocole sur la butte qui dominait la bataille, mais de la bataille elle-même, celle qui nous préoccupe aujourd'hui, cette question là de la souffrance des corps, rien, cette seule phrase, et pas n'importe quelle phrase, il y eut de grands carnages et peu de prisonniers. Or, on sait que tous les maréchaux de ce temps, à commencer par ceux de Louis XIV, n'étaient évidemment pas des philanthropes, et qu'on peut les compter parmi les plus grands serial killers, commencer par Turenne, qui a ravagé le Palatinat, en ne laissant absolument rien subsister derrière lui. Et donc, on peut imaginer que cette bataille en contrebas est évidemment sanglante, que ce sont des corps souffrants, et que ça mériterait un peu plus qu'une ligne, et que la mention « peu de prisonniers », ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on achève les survivants, et que l'on garde ces peu de prisonniers qui ont une valeur d'échange, une valeur marchande ou une valeur diplomatique. Donc le réel, selon Saint-Simon, se passe là-haut, là où est le pouvoir. Donc il n'y aurait d'invention du réel qu'à travers une perception du pouvoir. Le réel, c'est le pouvoir. Ce n'est pas cette indifférence de Saint-Simon aux souffrances des hommes engagés dans cette bataille en contrebas ne vient pas d'une absence de sensibilité, d'émotivité ou de générosité ou de compassion. Saint-Simon va écrire à Louis XIV, ça va lui valoir d'ailleurs un discrédit, pour signaler la misère des campagnes à l'affaire des vidames autour de chez lui. C'est-à-dire que la misère des paysans le frappe et il prend sur lui d'en avertir la cour, en sachant bien sûr que ce sont les fastes de la cour et les guerres de Louis XIV qui ruinent encore plus les campagnes et qui accentuent encore plus la misère des campagnes. Donc un être parfaitement sensible, on sait aussi l'attachement qu'il avait à sa femme Gabrielle et comment à la mort de Gabrielle, il interrompt ses mémoires et il dessine une ligne de larmes. Et il ne reprendra l'écriture de ses mémoires qu'un an après. Donc un être parfaitement sensible, qui pourtant n'a rien à dire d'autre que cette seule phrase « De part et d'autre, il y eut de grands carnages et peu de prisonniers ». Sur le corps souffrant, c'est une société qui sait de quoi elle retourne, puisqu'elle est environnée de corps souffrants. Et le corps souffrant, c'est bien sûr le corps du Christ, c'est celui qui est sur tous les crucifix, et Saint-Simon est un être religieux. Donc la souffrance du corps est captée par un seul, qui est le Christ, c'est-à-dire c'est une souffrance rédemptrice, c'est une souffrance qui capte toutes les souffrances du monde pour les retourner, les métamorphoser, les sublimer, et leur offrir in fine le salut éternel. De certaine manière, dans une société de droit divin, pas besoin de s'occuper de cette souffrance-là des corps, puisque le corps souffrant est un gage aussi de rédemption et de salut éternel. Le corps souffrant, on le reproduit à travers le martyr et à travers, par exemple, l'exécution. Et vous avez, il y a cette exécution absolument effroyable de Damien, cet homme qui avait essayé de poignarder Louis XV et avec une lame qui n'était pas petite puisqu'elle faisait 8 cm de long, simplement il faisait froid, Louis XV avait 15 épaisseurs sur lui, et il a juste été égratigné. Louis XV, en tant que justement descendant là, du plus haut, demande le pardon pour son agresseur, et on lui refuse, et de sorte que Damien va être torturé d'une manière effroyable. On va non seulement lui brûler la main avec le soufre, la main régicide, on va l'écorcher, verser du plomb fondu dans ses plaies, enfin quelque chose et puis après on l'étire, donc ce corps souffrant est lié évidemment au châtiment et à la rédemption. La révolution va régler ça. On sort donc du champ religieux. Elle règle ça par une mesure humaniste, à savoir la guillotine. On supprime la torture, on fait disparaître le corps souffrant et on se contente de couper la tête. Donc le condamné à mort n'a pas le temps de souffrir, et ainsi la révolution prétend, à travers cette multitude d'exécutions comme ça, évacuer le corps souffrant. Et on va voir comment ce corps souffrant évacué n'aura de cesse de faire de retour dans la littérature. Il avait occupé beaucoup, évidemment, les créateurs pendant des centaines d'années, et notamment on le voyait à travers les représentations donc, du Christ en croix. Vous savez que la grande querelle au début du christianisme reposait sur l'humanité ou la divinité du Christ. Est-ce qu'il était plus humain, plus homme que Dieu, etc. Et il y avait eu le concile de Nicée qui avait réglé la question en disant pleinement homme, pleinement Dieu. Donc il y avait ce corps qui était ce martyrisé, qui tenait en lui, là, comme une double nature, à la fois cette humanité, je souffre, je suis un corps souffrant, et cette divinité, cette souffrance, je vais la transformer, elle va m'accorder ensuite la vie éternelle. Et dans cette tension entre ces deux natures, on va la voir représentée à travers la figuration des Christ en croix. Au début, c'est-à-dire vous êtes au 10e, 11e siècle, le Christ est sorti de sa mandorle, on commence à lui trouver le Christ en majesté, qui ne porte pas les stigmates, qui est avec son globe, et on va lui rendre son humanité en le fixant sur la croix, mais il est évident qu'on prend des précautions, qu'on a on ne s'autorise pas à le faire souffrir comme n'importe quel corps, et il est sur la croix, vous le voyez dans les représentations autour du XIe siècle, par exemple, il y a un vitrail à la basilique de Reims, où il est sur la croix en robe, il est sur sa croix comme sur une rampe de lancement. Ce n'est pas un corps souffrant, il a les bras écartés, il est prêt à s'envoler. C'est juste une étape, une mauvaise passe dont il va se sortir. On sait que la veille de la Passion, il a demandé à son Père Céleste s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, c'est-à-dire si on pouvait m'épargner cette épreuve-là, j'aimerais autant. Et ceci dit, il ajoute, mais que votre volonté soit faite. Et le lendemain, il subit donc cette épreuve, mais c'est pour ressusciter le dimanche de la Pâque. Et les artistes, les créateurs sont confrontés à ce corps souffrant avec lesquels ils se montrent extrêmement délicats. Et donc, vous voyez ce Christ en croix. Il a effectivement la couronne d'épines, mais elle est juste posée délicatement, quasiment comme un bibi. Les mains sont percées, mais elles ne sont pas sanguinolentes. De même, les pieds et la plaie à son flanc. Et peu à peu, on va voir que dans cette tension là entre le pleinement divin et le pleinement humain, c'est le pleinement humain qui va l'apporter. On est au XIIe siècle, on commence à introduire le doute hein, dans cette là ici dans ces lieux là avec Abélard. Et puis il y a les croisades, il y a ces chevaliers là qui vont sur place en Palestine, qui foulent la terre de Jésus et qui en reviennent avec une autre image. À Jérusalem céleste, c'est une cité pouilleuse et misérable. Et on va voir saint François d'Assise qui est appelé là-bas aussi pour tenter de négocier auprès de Saladin. Revenir et inventer la première crèche vivante, première crèche et crèche vivante, c'est-à-dire qu'il place dans la crèche, le jour de Noël, un vrai bébé. C'est-à-dire que l'humanité du Christ est posée. On en termine peu à peu avec la figure divine et on va voir cette figure humaine, cette présence humaine s'imposer de plus en plus, et notamment dans les représentations du Christ. Et on va voir ce corps de plus en plus souffrant, de plus en plus victime des sévices qu'il a subis pendant son chemin de croix, pendre de plus en plus lourdement sur la croix, s'affaisser de plus en plus pour arriver à ce Christ de Grunewald, par exemple, 1515, où là, c'est évidemment un corps mort qui pend à l'arbre de la croix. Et quelque temps après, à Holbein, qui présente son Christ mort, c'est, je crois, 1520-1521, il est à Bâle en même temps qu'Erasme, c'est-à-dire naissance de l'humanisme sur le corps mort non ressuscité du Christ. Car le Christ que nous présente Holbein n'a plus aucun signe de la divinité. On reconnaît que c'est lui parce qu'on est habitué à voir les trous dans les mains et dans les pieds, la plaie au flanc, mais en aucun cas on ne reconnaît les signes du Christ glorieux. Le Christ de Mantegna, vous savez, celui sur lequel a copié Che Guevara là, sur son étal, que l'on voit comme ça par les pieds, porte encore un nimbe autour de la tête qui dit sa divinité. Là, dans le Christ d'Holbein, en 1520, il n'y a plus rien. Et c'est sur ce corps mort qui ne ressuscitera plus que la science va se pencher et qu'elle va l'ouvrir pour voir comment ça marche à l'intérieur, comment on va pouvoir le faire durer le plus longtemps possible, ce corps, à présent que l'espérance du salut devient de plus en plus hypothétique. Et simplement, ce sont encore des êtres religieux, des esprits religieux, mais on agit comme si, avec ce corps, comme si de fait, il ne ressusciterait plus. Vous savez que on ne pouvait pas se permettre de découper les corps dans un fil de médecine, c'était à cause de la résurrection de la chair. À la fin des temps, au jugement dernier, les morts allaient sortir de leur tombe et retrouver leur corps glorieux pour vivre, du moins les élus, éternellement à côté de la droite du Père. Donc on ne touchait pas à ce corps-là parce qu'il gardait cette possibilité de la résurrection. À partir du moment où on en est moins sûr, on peut l'ouvrir, et c'est là, très vite, là, vous avez en même temps que le Christ d'Holbein, vous avez Ambroise Paré, vous avez Fallope, vous avez, et puis après Harvey, etc., la circulation du sang. Là. Et donc ce corps, il va finir au XVIIIe siècle par devenir ce corps mécanique, ce corps machine, et que l'on voit à qui la révolution, dans sa grande bonté, accorde de ne plus le faire souffrir en lui coupant simplement la tête. C'est un geste humanitaire, entre guillemets, mais qui a évidemment une portée, c'est-à-dire que ce qu'on coupe, c'est la tête. La tête, c'est-à-dire c'est l'esprit, c'est l'imaginaire, c'est la pensée. C'est le chant. Hein. J'étais en Éthiopie au mois de décembre, donc on m'avait invité là-bas, donc j'en ai profité aussi pour aller faire un petit tour chez Rimbaud quand même. Et j'ai ramené, il y a des chromos hein, sur des tablettes de cuir, enfin des feuilles de cuir, comme ça, qu'ils font à la chaîne, ça n'a évidemment pas d'autre valeur que celle-là, qui représentent Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, et Marie, hein, qui est toutes les deux avec leur bébé, puisque vous savez que Élisabeth était la cousine de Marie. Et Marie donne le sein au petit Jésus. Alors elle le fait avec un geste très délicat en tordant la pointe du sein pour mettre le bout dans la bouche de son bébé. Et Élisabeth, donc la cousine, a aussi son bébé dans les bras, mais elle n'a que la tête du bébé. C'est-à-dire que le corps, on sait par espèce d'anticipation, le corps, on sait que Saint Jean-Baptiste a eu la tête coupée, et par la fille d'Hérodiade, Salomé, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et donc, Élisabeth présente son enfant que la tête. Et la tête, pourquoi ? Parce que, par un effet d'annonce de ce qui va arriver, mais aussi parce que c'est la bouche qui va annoncer celui par lequel le salut arrivera. Et c'est la bouche du prophète, c'est celui qui parle dans le désert. Donc il est la tête, c'est l'esprit. C'est ce qui relie évidemment directement au ciel. Le reste du corps de Jean-Baptiste peut bien retourner au ver et à la poussière. La tête seule est là pour encore affirmer que par sa bouche que le voici l'agneau de Dieu qui va sauver les péchés du monde. Donc cette tête détachée du reste du corps, symboliquement, c'est affirmer pour les révolutionnaires que on en a fini avec l'esprit, qu'on n'annoncera plus une autre bonne parole que celle qu'ils vont annoncer, c'est-à-dire l'avenir radieux et tout ce que l'on connaît, et que cette tête va rouler dans le panier et on va pouvoir la mettre à la décharge publique. Le roman réaliste commence avec un ouvrage en 1830 qui va mettre cette tête en scène aussi. Et on n'a pas réglé la question du corps souffrant en coupant la tête. Et on n'a pas réglé la question de l'esprit en détachant la tête du reste du corps. Et ce livre, c'est le rouge et le noir, bien sûr. Vous savez que le rouge, c'est les idées révolutionnaires, c'est-à-dire cette idée que les hommes vont prendre eux-mêmes en charge leur destin. Les hommes vont eux-mêmes établir un système politique qui va leur permettre de connaître la félicité sur Terre. Et donc ça, c'est pour le rouge. Et le noir, c'est le noir de la soutane. Mais c'est aussi, si on considère que c'est la soutane, que c'est le clergé, c'est donc aussi le noir de l'esprit, c'est-à-dire du chant, de la parole et du lyrisme, de tout ce qui appartient à cette tête coupée. Et Stendhal, quand il met en scène Julien Sorel, qui est la représentation de l'ambitieux parfait, vous savez qu'avant, il avait tenté d'écrire pour le théâtre pendant plus de 30 ans. Il a commencé 50 pièces, il n'en a fini aucune. Il attendait du théâtre qu'il lui apporte la gloire, l'argent et les femmes. Et au final, on n'a aucune pièce de lui, que des bribes. Et simplement, il y a une figure qui revient et qu'il essaye de mettre sur scène et n'y parvient pas. C'est la figure de ce qu'il appelle l'ambitieux parfait. C'est-à-dire que l'ambitieux parfait, donc Julien Sorel, ce qui représente l'ascension de ces 100 grades, de ceux à qui la Révolution a permis l'accès à des métiers et à des castes qui leur étaient interdites. Cet ambitieux parfait, évidemment, se figure à travers une ascension, une élévation. Et au lieu que le théâtre était un plateau, le plateau de l'exposition du pouvoir. Hein, le théâtre, c'est la cour, d'ailleurs, côté cour, côté jardin. Et ce qui fait que sur le théâtre, On n'a pas besoin de soucier de l'ascension des individus, ils sont là de droit divin. C'est la cour, elle est là parce que c'est la cour, parce qu'elle est parfaitement légitime à cette place-là. Ce qu'on reproche au bourgeois gentilhomme, ce n'est pas de sa fortune, et la manière dont il a acquis cette fortune-là, après tout, c'est la manière de Fouquet et de tous ces gens-là qui n'étaient pas très regardants. Ce qu'on lui reproche, c'est d'accéder sur le plateau. Et on lui refuse cet accès au plateau. Et on sait comment la bourgeoisie va contourner ça en mariant ses filles riches aux princes ruinés. Et peu à peu, la bourgeoisie va prendre le pouvoir. Et là, ce qui sera fait en 1830. Donc le roman réaliste témoigne de cette prise de pouvoir par la bourgeoisie. Et ce qu'avait constaté Stendhal, quand il essayait de mettre en scène cet ambitieux parfait, qui était donc une ascension, il a soudain une illumination dans son journal. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, impossibilité du drame. Et il ajoute, de là le règne du roman. Et il commence La petite ville de Verrières, etc., le début du Rouge et Noir. Et donc, dans ce roman réaliste, qui dit cette ascension des parvenus, cette prise du pouvoir par la bourgeoisie, invention de cette invention du réel, qui est celui donc de la bourgeoisie, glissement, le pouvoir, le réel étant un pouvoir, glissement du pouvoir de la cour au pouvoir de la bourgeoisie, mais il y a toujours encore ce corps souffrant qui est là, dont on ne s'est pas débarrassé avec la révolution. Simplement, le corps souffrant qui a été capté par un seul, à savoir le Christ, devient maintenant l'affaire de tous. Donc le roman réaliste se retrouve avec sur les bras cette infinité de corps souffrants, et c'est ce qui va être exactement son travail. C'est-à-dire que vous allez voir tout le roman réaliste s'appliquer à dire cette souffrance des corps qui était absente chez Saint-Simon. Vous avez les cadavres de la bataille des Lots, desquels s'extrait le colonel Chabert, avec cette figure à moitié emportée par un coup de sabre, et donc cette espèce de résurrection. Hein, on parlait tout à l'heure de cette seconde vie, et la seconde vie du colonel Chabert qui sort non pas du deuil, mais qui sort de la mort. Donc réintroduction de la mort, réintroduction de la résurrection, réintroduction du corps souffrant, rédempteur, etc. Et dans le Rouge et le Noir, Stendhal, évidemment, nous parle de ce corps, mais évidemment torturé à la manière de la Révolution, c'est-à-dire que l'on ampute de la tête, mais cette tête, au lieu d'être jetée comme ça dans le panier, va être récupérée par la femme aimante, par Mathilde de la Mole, qui va l'emporter et qui va même assister à la messe avec la tête sur ses genoux, comme Élisabeth, la cousine. Et donc, où est passé l'esprit, où est passé le champ? Dans ce réel qu'impose le temps, que devient l'esprit, puisque nous sommes désormais dans un monde qui s'est débarrassé avec la Révolution de cet esprit. Et c'est-à-dire de cette transcendance, de cette possibilité du champ, dans la double nature, de la part divine, bien sûr. Et c'est une problématique à laquelle va se confronter Flaubert quelques années après. Vous savez qu'il écrit d'abord, il se définit comme un romantique, c'est-à-dire lui, il est du côté du champ, du côté de l'esprit, et il écrit une œuvre qui, d'après lui, va le faire rentrer d'une manière tonitruante en littérature, et qui est La Tentation de Saint-Antoine. Et la tentation de Saint-Antoine, ça raconte quoi? Évidemment, quelque chose qui n'est absolument pas réaliste pour l'époque, dans laquelle le roman réaliste a déjà imposé ses canons. C'est donc l'histoire, évidemment, de l'esprit, c'est-à-dire d'un ermite dans le désert de la Thébaïde, qui est visité, à qui le diable envoie tout un tas de tentations, pour le faire renoncer à sa sainteté, Hein, c'est comme ça qu'il voit débarquer la reine de Saba avec, dans ses voiles, etc. Et donc nous sommes en Normandie, et le jeune Flaubert, qui n'est pas Flaubert, qui est juste le fils bon à rien d'un grand chirurgien de Rouen, donc ce jeune Flaubert, là, écrit cet ouvrage, ce long chant, qui raconte les tentations de saint Antoine dans ce désert de la Thébaïde au 3e ou 4e siècle après Jésus-Christ. Donc une œuvre de l'esprit mettant en scène ce chant, cette élévation. Et il convoque ses deux amis, Maxime Ducamp et Louis Bouillet, pour leur lire ce qu'il pense, lui, être un chef-d'œuvre, puisqu'il leur dit tout de suite, d'emblée, « Vous allez voir ce que vous allez voir, vous n'allez pas en revenir ». De fait, ils ne vont pas en revenir. Pendant 3 jours, vous avez cette lecture de la tentation. Et de temps en temps, donc il y a le grand Gustave, qui n'était pas si grand que ça, mesurait 1m82, mais pour l'époque, ça suffisait pour passer pour un géant, qui est dans le salon de Croisset, qui lit ce texte comme ça, avec beaucoup de véhémence et de flamme, avec des hauts et des has, on le sait, puisque Maxime Ducamp l'a raconté dans ses souvenirs littéraires. Et où, de temps en temps, il y a la mère de Flaubert qui pousse la porte du salon pour essayer de voir la réaction des deux amis. Et ce sont trois jeunes amis, ces trois amis-là sont trois jeunes gens qui ont des ambitions littéraires, mais qui ne sont rien, qui veulent simplement entrer en littérature. Et donc, il y a le premier qui s'est lancé. Et au bout de 3 jours, évidemment, la lecture s'arrête et pas de réaction du côté de Ducamp et Bouillet, qui piquent tous les deux la tête. Et Flaubert s'énerve, dit « Mais enfin, dites-moi !» Et c'est Louis Bouillet qui, courageusement, prend la parole et dit « Nous pensons qu'il faudrait jeter tout ça au feu et n'en plus reparler. » Stupeur de Gustave, qui pousse un cri d'effroi, et qui normalement aurait dû jeter ses deux amis en leur disant qu'ils ne comprenaient rien, mais en fait, il faut croire que c'était de vrais amis, parce qu'après ils vont discuter toute la nuit. Et c'est au cours de cette nuit-là, la nuit de Croisset, que Bouillet va faire cette suggestion à Flaubert. Il dit « Ça suffit, là, tes grandes envolées lyriques, ce que Flaubert appelle ses grands vols d'aigle, c'est plus ça maintenant. Tu devrais écrire un roman terre à terre, un roman à la Balzac. » Et ce qui est un effroi pour Flaubert, quand on lit La Tentation de Saint-Antoine, la perspective que derrière on va lire Madame Bovary est hautement improbable. Mais le genre réaliste est déjà là. Donc, là aussi, c'est le fait divers qui devient la mesure étalon du monde. C'est-à-dire on a remplacé le Christ en croix, le Christ souffrant, par le fait divers, c'est-à-dire l'un par le multiple de la souffrance. Et donc, dans ce multiple de la souffrance, répandu à travers les faits divers dans la presse, il y a cette histoire d'une femme, Delaunay, qui s'est suicidée parce que... elle s'en sortait plus, le adultère, des dettes, enfin bon. Le fait divers qui a inspiré, un autre fait divers ayant inspiré donc Julien Sorel et Le Rouge et le Noir, un autre tel livre de Balzac, tel livre des frères Goncourt. Encore une fois, la figure souffrante est démultipliée dans dans la presse. Et dont s'emparent tous ces romanciers-là pour écrire des livres terre à terre, des livres à la Balzac. Et évidemment, on s'intéresse à quoi ? Puisqu'on parle d'un fait divers, on s'intéresse au corps souffrant. Hein. Et que va faire Flaubert ? Ça va être, à travers cette histoire-là, ça va être d'amener peu à peu cette pauvre Emma, dont je rappelle que dans Une jeune fille est Rouault quand même, vers cette fin tragique, cette agonie, où elle finit par s'empoisonner, Flaubert s'empoisonnant quasiment pour essayer de rendre cette agonie d'Emma. Mais pour arriver à ça, à écrire ce livre terre à terre, à la Balzac, il va falloir que Flaubert s'opère de ce qu'il va appeler le cancer du lyrisme, c'est-à-dire le chant. Hein, c'est, encore une fois, c'est ce qui l'avait amené, ce chant, cet imaginaire enfiévré, cet esprit, ce paraclet qui l'avait emmené dans les déserts de la Thébaïde pour évoquer la figure de saint Antoine. Là, il se plante au milieu de sa Normandie, et au milieu de sa Normandie, il va devoir rendre compte. Et pour rendre compte, pour témoigner, il est obligé de s'opérer du cancer du lyrisme, c'est-à-dire du chant, de la poésie. Et donc, il se fout littéralement un cancer, ça, quand ça s'opère, c'est par une amputation, on enlève la tumeur. Donc il faut s'opérer du cancer de l'esprit, de l'irisme, c'est s'opérer de la tumeur de l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que ce corps souffrant, sans aucune possibilité comme ça d'espérance. Hein. Et donc c'est à quoi il va s'appliquer pour finir, après 5 ans d'une écriture laborieuse dont on suit les péripéties à travers les lettres qu'il envoie à Louise Collet, sa maîtresse. Donc c'est aussi le corps souffrant de Flaubert qui accompagne le corps souffrant d'Emma, et donc pour aboutir à cette fin tragique où Emma meurt à la fin du livre empoisonnée. Et pour ça, cette opération du cancer du lyrisme, on la voit dès le début. Il commence avec le nous, c'est-à-dire le nous du chant, hein, le nous qui intègre celui qui chante. Et très vite, le nous disparaît. On sait pas, personne ne peut expliquer la raison de ce nous, mais c'est cette opération qui fait que pour dire cette réalité, terre à terre, à la Balzac, dont parlait Lou Bouilhet, il est obligé de s'amputer littéralement des cordes vocales, de n'être plus qu'une sorte de témoin neutre, et lui disant que le dorénavant, la place du romancier, c'est d'être partout et invisible, hein, comme la présence de Dieu chez Pascal. Donc on va voir comment ce corps souffrant va devenir de plus en plus envahissant, et ça va nous amener au naturalisme qui arrive au moment du positivisme, c'est-à-dire au moment où la science devient toute puissante, c'est-à-dire qu'on va passer du réel de ce pouvoir de la bourgeoisie à ce réel pouvoir de la science avec Zola et le naturalisme. Hein, on sait que Zola va écrire un essai, un recueil d'articles qui s'appelle Le roman expérimental. Le roman expérimental, c'est un oxymore. Hein. C'est comme le bourgeois gentilhomme, ce sont deux termes parfaitement antagonistes. Parce qu'il y a le roman, c'est donc l'esprit, l'invention, l'imaginaire, la fiction. Et puis, expérimental, c'est donc l'expérimentation scientifique. Et Zola dit dans sa préface à Thérèse Raquin qu'il traite ces deux, les deux amants terribles de son histoire comme des bêtes. Il emploie le terme des bêtes, donc il y a une déshumanisation pour pouvoir traiter de ces corps souffrants, non plus à la manière compassionnelle de Flaubert, agonisant avec Madame Bovary, mais à la manière de Claude Bernard, qui était donc le grand biologiste de son temps, qui se vantait d'avoir découpé des dizaines de milliers de souris et de grenouilles dans sa vie. Et donc Zola propose de découper les corps comme le fait Claude Bernard pour ses grenouilles, puisqu'il dit qu'il les rend à l'état de bête. Ce sont donc, qu'est-ce qui motive les comportements des individus? C'est les bile, c'est, si on reprend un peu une terminologie du XVIIe, les humeurs, les pulsions, etc. Et on va arriver très vite comme ça à Charcot, à Freud, etc. Et donc Zola, pour ça, propose, pour témoigner, il propose une méthode. Il dit, c'est simple, vous choisissez votre sujet, vous débarquez avec vos carnets et vos stylos, et puis vous prenez des notes. Après, vous rentrez chez vous, vous organisez ces notes-là, vous n'avez même pas besoin de créer de la fiction, le roman se met en place tout seul. Et c'est comme ça qu'il décrète la mort de l'imagination. Donc on voit que le romancier, du coup, maintenant, devient un témoin, une espèce d'enquêteur de la souffrance, du corps souffrant. C'est comme ça qu'il va descendre dans la mine, mais non plus, encore une fois, dans une perspective de rédemption, comme ce l'était avant avec le corps du Christ, mais pour témoigner de l'exploitation, de l'oppression dont sont victimes une grande partie des individus. Et on va voir cette pratique-là qui va aboutir par exemple à Albert Londres, hein, mais qui va aboutir aussi à Orwell, quand Orwell écrit dans la Dèche à Paris et à Londres, ou le Quai de Wigham, où là, il ne se contente plus d'être témoin, il lui faut expérimenter la misère de l'autre pour pouvoir témoigner de la souffrance de l'autre. Orwell va devenir 6 mois clochard à Paris, il va descendre dans la mine, mais vraiment non pas comme Zola, mais en travaillant dans la mine, là dans les mines du nord de l'Angleterre, pour expérimenter la souffrance de l'autre. C'est qu'entre-temps, il y a eu un événement massif, c'est la Première Guerre mondiale. Et cette Première Guerre mondiale a transformé complètement la donne. C'est-à-dire que le corps souffrant dont témoignait l'écrivain, qui était là comme une sorte d'enquêteur prenant son traitant comme ça ses sujets sur le vif, et ce témoin va se dire, mais maintenant qu'on m'a appris à lire et à écrire, parce qu'entre-temps il y a eu aussi l'école laïque obligatoire, hein, c'est-à-dire que tous ces gens qu'on a envoyés au front en 1914 savaient lire et écrire, ce qui n'était pas le cas évidemment des soldats de Napoléon et des armées qui s'étripaient sous les yeux de Saint-Simon et du roi d'Espagne. Donc pour cette souffrance-là, plutôt que de faire appel au grand témoin là, qui va venir, qui va enquêter, qui va descendre dans la tranchée, comment vous faites, oh, c'est pas marrant pour vous, je prends des notes, mais moi je rentre bien vite à l'arrière, ceux-là vont témoigner directement. C'est-à-dire que le témoignage va, que le corps souffrant va témoigner lui-même. Et ce qui fait que la grande littérature de 14, c'est une littérature de guerre, ce n'est plus une littérature simonienne où on entendrait le point de vue des maréchaux de Joffre sur les stratégies à mener pour gagner la guerre. On ne sait rien de ça. Hein. En revanche, ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut lire chez Genevoix, qui lui était un lettré puisqu'il était normalien, évidemment chez Céline, chez Giono, chez Dorgelès, chez Barbus, mais aussi ce qu'on peut lire dans des milliers, des dizaines de milliers de carnets et de journaux tenus par les poilus, dont le fort de Vincennes, là, que collectionne le que l'on trouve au fort de Vincennes. Donc on voit que celui qui a la légitimité pour témoigner de cette souffrance du corps, dorénavant, c'est celui qui souffre. Et ce qui fait que la grande littérature de la Seconde Guerre mondiale, ça ne devait pas être une littérature de guerre comme il y en avait eu pour la Première Guerre mondiale, ça va être une littérature des camps. C'est-à-dire, chercher où est la souffrance et vous allez trouver la littérature. Donc, il n'y a aucun témoignage de soldats débarquant le 6 juin ou à Monte Cassino. Vous avez quelques textes comme ça épars, mais la grande littérature, qui est une littérature de la souffrance, c'est évidemment la littérature des camps. Camps allemands, mais aussi camps soviétiques. Et par des gens qui ne sont pas des professionnels, comme l'était Zola enquêtant, ou comme l'était Orwell enquêtant. Primo Levi est chimiste. Evgenia Ginzburg est aussi chimiste ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'expérience du corps souffrant qui appelle, qui demande, qui exige ce témoignage et qui invente l'écriture. Donc il y a un renversement, c'est-à-dire que ce n'est pas l'écriture qui va au corps souffrant, c'est le corps souffrant qui va à l'écriture. Et ce qui fait que je termine vite là, que la question après Auschwitz et Hiroshima, où le corps souffrant disparaît en fumée à Auschwitz et en cendres à Hiroshima. C'est moins Est-ce qu'on peut faire de la poésie après Auschwitz, ou est-ce qu'on peut écrire des romans après Auschwitz? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a une légitimité morale pour écrire des romans après Auschwitz? La question, c'est avec quoi peut-on écrire des romans après Auschwitz si le corps souffrant, du coup, est parti en fumée? Et on n'a plus cette possibilité, comme Holbein en 1520, de l'ouvrir pour essayer de le remettre en marche. Le corps a disparu. Toute une raison, on peut expliquer aussi une sorte de désincarnation de la littérature d'après-guerre dans le nouveau roman et ce genre d'expérimentation littéraire qui va suivre par cette impossibilité du corps, cet escamotage du corps souffrant. Et l'ère du soupçon que dénonce Nathalie Sarraute en 1956, c'est une manière de dire on ne croit plus à la fiction, tout simplement parce qu'il n'y a qu'un témoignage crédible, c'est celui qui témoigne de sa propre souffrance. Et juste pour faire le petit lien avec mon travail, moi, le corps souffrant, il m'a été donné un lendemain de Noël 1963, où mon père est mort brutalement dans la salle de bain. Et c'est ce corps-là que j'ai mis au début de mon travail.
Je crois que tout le monde vient de témoigner de l'émotion que nous avons eue à vous écouter. Et en vérité, vous avez bien traité le sujet que j'espérais.
On ne s'était pas concerté. Hein.
Non, mais c'était ce que j'espérais que vous traiteriez. En imaginant, il y a un certain nombre de semaines, un séminaire qui ne s'est pas du tout déroulé, pas tellement comme je l'imaginais, mais sur... En effet, cette transformation qui apparaissait dès votre premier roman. Et puis c'était pour moi une belle illustration de ce que je disais en conclusion de mon propos tout à l'heure sur le deuil, l'expérience du deuil comme départ de la littérature, que je n'avais pas associé au corps souffrant, mais enfin à l'expérience du deuil. Je crois que vous aviez très bien souligné, enfin, puisque en fait c'était ce dont nous avions parlé lors de ce premier séminaire, ce moment de la Première Guerre mondiale et des écrits qui ont suivi la Première Guerre mondiale. J'étais content aussi de constater que vous faisiez la même analyse que j'avais proposée sur les conséquences de l'école laïque et obligatoire dans cette transformation de la littérature, ce qui me paraît enfin, tout à fait certain. C'est ça qui a bouleversé. Enfin, on pourrait dire qu'il y a d'autres raisons, c'est que cette guerre a duré très très longtemps et que sont allés au front des hommes beaucoup plus âgés en raison de la durée de la guerre. Et donc ayant une expérience de la vie qui précédait celle du front. Mais je crois que c'est tout à fait juste de dire cela. Et alors je suis très sensible à ce que vous avez dit sur effectivement la profonde différence avec la Seconde Guerre mondiale, où on s'est beaucoup moins intéressé à la suite de la Seconde Guerre mondiale au récit. Enfin, c'est aussi parce que la Seconde Guerre mondiale est une guerre totale. Et dans la mesure où c'est une guerre totale, ce n'est plus seulement les témoignages des poilus ou des soldats qui peuvent rendre compte, qui peuvent témoigner de ce qu'a été cette guerre, mais les témoignages de ceux qui ont souffert partout.
Alors, il y a une chose qui rejoint aussi ce que vous disiez avant, c'est que pour la Seconde Guerre mondiale, pour la guerre elle-même, pour la bataille, on a été submergé par les images.
Oui.
C'est-à-dire que c'est par ces types qui débarquent, qui sont sur les routes, les chars, etc. Alors que pour la Première Guerre mondiale, les quelques films sont des films bidons. J'avais fait une émission il y a très longtemps de La Marche du siècle. Avec, j'étais à côté de Stéphane Audin-Rouzeau, donc grand spécialiste de la Première Guerre mondiale et de l'anthropologie de la guerre. Et donc, on nous diffusait un petit film de la Première Guerre mondiale. Donc, on voyait les types sortir des tranchées comme ça et courir. Et puis, Stéphane Audin-Rouzeau se penche vers moi et me dit « Regardez où est la caméra ?» Et évidemment, c'était filmé en plongée. Donc, il fallait imaginer en pleine bataille de la Somme un caméraman à 3 mètres au-dessus du sol, tournant tranquillement comme ça, et que sans doute les armées allemandes, considérant vraiment le talent de ce caméraman, essayaient d'éviter.
Oui, absolument. Donc, la guerre, c'est la guerre civile dont le témoignage a fait la littérature, notamment celle des camps, mais d'autres qu'on a pu voir depuis. Et aujourd'hui ?
Alors, ce qui était, si si le réel c'est le pouvoir, et si le pouvoir c'est le corps souffrant, on voit bien qu'on en arrive comme ça à quelque chose. Par exemple, bon, ce qui s'est passé à Gaza, c'est le Hamas qui sort de ses bunkers et qui, considérant les chiffres, il y a eu, je sais pas, 1200 ou 1300 morts du côté palestinien et je sais pas 20 ou 30, je sais pas, hein, du côté israélien, et le Hamas disant on a gagné, c'est-à-dire 1200 à 30. Le chiffre est imparable. C'est-à-dire que le corps souffrant devient effectivement a été la mesure du siècle. Ça a été le au nom des opprimés hein, que ont eu lieu toutes ces guerres, toutes ces révolutions, au nom de l'émancipation des peuples et au nom de la souffrance des peuples. Hein. Donc on voit que la littérature du XXe siècle, qui est une littérature de la désolation, de la destruction, de la mort, n'a fait que reprendre cette ligne de force qui traverse le XXe siècle. Mais pour revenir là aussi à quelque chose que vous avez cité tout à l'heure, il y a un mort au début du XXe siècle qui offre un autre spectre pour le réalisme auquel il va bien falloir qu'on s'intéresse. C'est Bergotte. Quand Proust raconte la mort de Bergotte, donc on sait qu'il va voir l'exposition de Vermeer et qu'il est foudroyé en regardant la précieuse matière du petit pan de mur jaune, la vue de Delft de Vermeer. Et Proust dit, au moment où le Bergotte tombe et meurt, il donc devant la beauté, comme espèce de fulguration de la beauté, comme si Bergotte avait été terrassé par cette beauté du tableau de Vermeer. Et il se pose donc évidemment la question de la survie, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la tête qu'on a fait rouler, mais on ne s'est pas encore débarrassé de cette question-là de l'esprit. Et Proust dit, il y a une chose bizarre, c'est que la bonté existe en ce monde. Et elle ne peut pas exister si elle ne préexiste pas au monde. Et la bonté, la générosité, la mansuétude, etc. Donc il faut penser que la bonté préexiste au monde. Ce n'est pas le monde qui a inventé la beauté. Donc elle est là avant. Donc il n'est pas impossible, toujours de manière très tortueuse, qu'il y ait quelque chose après. Et la phrase que l'on connaît, c'est de sorte que l'idée que Bergotte était mort à jamais... et sans invraisemblance. N'était pas mort à jamais et sans invraisemblance. C'est-à-dire avec une triple négation pour dire qu'on peut aussi espérer. C'est-à-dire qu'il encadre le corps souffrant de Bergotte, tombant, mourant, par la beauté du tableau de Vermeer, par la bonté qui lui préexiste, c'est-à-dire l'humanité, c'est-à-dire ce n'est pas le mal qui triomphe, et par l'espérance, puisque cette idée que Bergotte n'était pas mort à jamais n'est pas sans invraisemblance. Donc, dans ce spectre, autour du corps souffrant, on a oublié la bonté, la beauté et l'espérance. Donc, voilà, peut-être qu'on va s'occuper du reste.
Bon, mais on va rester sur ça.